France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Un espoir de plus dans la quête d'un vaccin contre le Covid-19. Le laboratoire américain Moderna prévoit de produire 20 millions de doses d'ici la fin du mois de décembre. Son vaccin, toujours en phase de test, est efficace à près de 95% d'après les annonces. Elles interviennent une semaine après la communication du duo Pfizer-BioNTech qui affirme de son côté avoir un vaccin efficace à 90%. Un espoir quand les restrictions se multiplient toujours face au Covid-19. En Allemagne, où une forte hausse des infections a été observée depuis plusieurs semaines, la chancelière Angela Merkel appelle les Allemands à réduire les contacts au strict minimum. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson, cas contact, s'est mis à l'isolement avant-hier, quand la Suède annonce finalement limiter les rassemblements publics à 8 personnes maximum face au rebond des contaminations. C'est une première en Suède. Le nombre de nouveaux cas positifs recensés en France, en revanche, poursuit sa baisse lentement. Il est même au plus bas, ce nombre de cas positifs, depuis des semaines, avec 9400 malades du Covid-19 détectés en une journée hier. Mais le bilan des morts, lui, est en hausse, 508 décès supplémentaires. Selon l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, les bars et les restaurants pourraient rester fermés au-delà du 1er décembre et même jusqu'à la fin de l'année. Les cérémonies religieuses, elles, pourront reprendre au 1er décembre sous conditions, en respectant un protocole sanitaire strict, c'est ce que disait hier le Premier ministre Jean Castex. Et puis sachez que le Sénat a adopté cette nuit le 4e projet de budget de crise pour 2020. Il prévoit plus de 20 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Les sénateurs vont tenter de trouver un accord avec les députés aujourd'hui pour aboutir à un texte commun.
David Grossman cherche la lumière dans les silences du passé.
Sur France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Écrivain des mémoires endolories, le romancier israélien s'inspire cette fois d'une histoire vraie et raconte, au féminin, l'existence, un destin, dont la vie joue avec moi, qui paraît au seuil. Il est notre invité.
La Grande Table, ce mardi à midi sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Après-guerre, mai 68, crise pétrolière, effondrement bancaire de 2008... Alors que nous vivons confinés en pleine crise économique et sanitaire, LSD tend l'oreille aux archives pour voir à quoi ressemblaient les lendemains de crise.
Sur France Culture, le documentaire se déploie en grand format. Perrine Kervran.
Et surtout, pour mieux imaginer les nôtres quand ce sera enfin le moment.
LSD, la série documentaire, du lundi au jeudi à 17h et sur franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture, il est 6h03, c'est l'heure du monde vivant. Bruno David nous apprend ce matin qu'il ne faut pas prendre les aigles pour des pigargues.
Pour la première fois, l'aigle baissa la tête. Sombre jour. L'empereur revenait lentement, laissant derrière lui brûler Moscou fumant. Ces trois vers de Victor Hugo, tirés des Châtiments, montrent avec force l'intensité de la défaite. Le grand Napoléon Ier est vaincu, l'aigle impérial est terrassé. L'aigle, un animal célébré pour sa puissance, sa beauté, élégance, acuité, perspicacité. Terrassé, c'est dire. Oiseau solaire, l'aigle fascine et a toujours fasciné. Il n'y a pas d'oiseau plus présent dans l'héraldique et dans les symboles que l'aigle. Oiseau de Zeus dans l'Antiquité, les Romains l'utilisaient comme emblème de leur empire. Son rôle de roi du ciel est explicite chez les chamans sibériens et il est identifié au soleil chez les Amérindiens qui se parent de sa lumière en portant des plumes d'aigle. Association que l'on retrouve également au Japon. Les psaumes chrétiens en font un symbole de régénération spirituelle, tel le phénix renaissant de ses cendres. Aujourd'hui, l'aigle orne le drapeau allemand et figure sur les armoiries du Mexique, de l'Égypte, de l'Albanie, de la Pologne, du Monténégro, de la Serbie, de la Russie, de l'Autriche, etc. Tout le monde veut être un aigle, mais en réalité, n'est pas aigle qui veut. D'abord, si l'aigle est associé à la même symbolique en maints endroits, soyons clairs d'emblée, ce n'est pas exactement le même aigle partout. Car le terme d'aigle désigne 33 espèces de rapaces diurnes de la famille des Accipitridés et de la sous-famille des Aquilinés. Les aigles sont des prédateurs aériens réputés pour leur vision. Un aigle perçoit ses proies jusqu'à 1 km. À cette distance, il peut voir une souris. C'est comme si, du 10e étage de votre immeuble, vous pouviez contempler une fourmi marcher sur le trottoir. Chaque œil possède deux centres de mise au point qui permettent de voir avec acuité devant et sur les côtés. Le champ de vision est de 270 degrés. Un aigle perçoit aussi cinq couleurs primaires, car il détecte des ultraviolets. En outre, les aigles possèdent une lame osseuse formant un toit au-dessus de l'orbite, ce que les anatomistes appellent le processus supraorbitaire. Cela donne aux aigles cet air intrépide qu'on leur attribue par anthropomorphisme. Avoir des yeux d'aigle, c'est ainsi avoir une vue perçante et un regard sévère. Évidemment, vous l'aurez remarqué, je n'ai pas parlé d'un aigle extrêmement célèbre, l'aigle américain. Et pour cause, il y a escroquerie sur la marchandise. Ce n'est pas un aigle. Les taxonomistes sont des enquiquineurs, et le président des États-Unis pourra bien gazouiller sur son compte Twitter, il n'y changera rien. Le soi-disant aigle américain est le pygargue à tête blanche, Aliaetus leucocephalus. En effet, au sein des accipitridés, il existe deux groupes. Les aquilinés, qui regroupent les aigles véritables, et les aliaetinés, qui regroupent cinq espèces de pygargues. Ces derniers ont un bec massif, mangent des poissons et n'ont pas de plumes aux pattes. Bref, ce sont des pseudo-aigles. Les aigles ont peut-être les yeux perçants, mais les taxonomistes aussi.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel. Et comme on ne peut pas voyager, comme on ne peut pas bouger, je vais vous proposer pour commencer cette journée un voyage dans l'espace et le temps. Un voyage pour aller retrouver la Casbah d'Alger en 1930, c'est-à-dire la Casbah de Pépé le Moko et des artistes maudits, des petites frappes et des grands révolutionnaires. La Casbah qui a inspiré Albert Camus, le poète Jean Sénac, mais aussi des réalisateurs comme Luchino Visconti et Gillo Pantécorvo. La Casbah avec ses ruelles et ses venelles atypiques qui a inspiré aussi des architectes comme Le Corbusier ou aussi Claro. Claro qui a construit une maison dans ce quartier d'Alger, la maison indigène. Et c'est son petit-fils qui raconte cette histoire, c'est-à-dire l'histoire de ce quartier, l'histoire de cette bâtisse, l'histoire de cette époque, dans un texte édité par Actes Sud. La maison indigène de Claro est un texte que je vous recommande vivement. Il est sorti le printemps dernier, c'est-à-dire en plein confinement. C'est une occasion aujourd'hui de recevoir Claro, puisqu'on n'avait pas pu le recevoir à cette époque-là. Et il est avec nous ce matin pour le réveil culturel. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec les petits matins de France Culture. Bonjour Claro.
Bonjour.
Votre grand-père, Léon Claro, était un architecte. Il était aussi, en 1930, un Algérien, en quelque sorte, puisqu'il était là-bas. Votre histoire familiale, même si vous êtes né en France, votre histoire familiale va traverser l'histoire de l'Algérie et de la colonisation française de l'Algérie.
Ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à faire des recherches sur ce passé qui n'est pas le mien, mais qui est un petit peu le mien, c'était d'apprendre que quand on disait un Algérien, c'était un Français. Enfin, ça pouvait être éventuellement un Espagnol, mais voilà, ça désignait les Français, que pour les autres, on disait effectivement parfois les Arabes et parfois indigènes, mais qu'il y avait une évidence comme ça de cette présence française, voilà, depuis quand même 1830. Et c'est très étonnant de voir de l'intérieur comment les gens conçoivent ça. J'ai retrouvé des lettres de mon grand-père où il explique en fait pour lui l'Algérie, il y avait des Turcs au 19e, et puis on est venu les chasser. Il y avait aussi des Arabes, mais les Arabes, c'était pas leur pays. Ils en déduisaient que les Arabes venaient d'Arabie. Voilà. Donc finalement, il y avait de la place pour que la France vienne, etc., et s'installe. Et voilà. Et c'est tout le problème de cette présence française. Enfin, c'est toute une histoire où tous les termes ont l'air d'être entourés de espèces de guillemets mutiques effrayants.
Donc, que vous n'avez pas employé encore l'expression pied noir.
Pas encore pied noir. Et non, on peut parler aussi de la notion d'étranger par rapport à Camus. Il y a des choses. tout le monde repousse la notion d'étranger vers l'autre, cette histoire.
C'est une maison mauresque, donc, qui a été construite en haut de la Casbah d'Alger pour célébrer le centenaire. Et à partir de cet élément biographique de votre grand-père, architecte Léon Clarot, vous allez écrire un livre qui ressemble à la Casbah, puisqu'il y a plusieurs passages, des ruelles, il y a aussi des impasses. On se perd avec plaisir, on rencontre des gens extraordinaires, et puis vous nous promettez un livre sur votre grand-père, et finalement c'est un livre sur votre père, sur la quête du père. Mais partons de cette maison, parce que dans cette maison-là, il va y avoir quelques célébrités. Albert Camus va passer là. Albert Camus va écrire un texte sur cette maison-là. Vous convoquez aussi Jean Sénac, on va en parler, qui était l'ami de votre père. On l'apprend en lisant la maison indigène, Clarot. Et aussi tous les architectes, les peintres, les orientalistes, le passage du Corbusier à Alger, puisque lui aussi est passé par la Casbah. Il est même mort à la Casbah. Combien de gens sont morts à la Casbah?
Pas mal de souvenirs en tout cas, ce qui est sûr. Mais c'est vrai que c'est intéressant cette maison parce que déjà elle est censée célébrer un style qui a déjà presque disparu d'Alger. Elle est là dans le cadre de quand même d'un centenaire qui a été quelque chose d'assez incroyable. On a même des images filmées. Enfin, ça a été un budget monstrueux qui a été fait pour fêter ses 100 ans. Et elle est construite avec des débris de l'ancienne Casbah, une partie de l'ancienne Casbah du bas qui avait été détruite. Donc elle est refaite. C'est une fausse maison. Et c'est une maison sans habitants, c'est comme une maison témoin, mais qui témoigne de quoi? Et voilà, et il se trouve que elle est tellement emblématique que les gens qui y passent ont des révélations. Donc Camus, effectivement, je découvre ça, qu'il a même pas 20 ans, et il écrit ce texte magnifique, La Maison Mauresque, hein, qu'on peut lire dans la
Bible. En 1933.
Volume. Voilà, et dans une espèce de fièvre. Et c'est son premier texte vraiment, avec des guillemets, littéraire, lyrique. On pressent la prose de Noce, par exemple. Et tout de suite, il fait de cette maison une métaphore. Et on sent bien que voilà, cette maison, elle est comme, enfin, pour moi aussi d'ailleurs, c'est comme une boîte noire, comme une machine à voyager dans le temps. C'est aussi quelque chose qui est fermé, qui est vide, qui est désert, qu'il faut peupler. Est-ce qu'elle est ouverte, est-ce qu'elle est fermée, quand le Corbusier veut la voir, c'est assez amusant parce que lui il veut visiter la Casbah mon grand-père l'a fait venir et explique à le Corbusier, tu peux pas entrer, enfin vous voyez parce qu'il est vénéré, vous pouvez pas entrer comme ça dans une maison de la Casbah, enfin, c'est chez les gens, on n'entre pas comme ça, c'est quand même leur coin à eux. Et évidemment la seule maison qu'on peut visiter, la seule maison qui est ouverte paradoxalement est une maison close. Et voilà, et ça je raconte ça parce que c'est assez incroyable, on sent que pour le Corbusier ça a été quelque chose de séminal, il a fait des dessins, qui toute sa vie il a fait des dessins comme ça, sur ses femmes allongées en référence à Delacroix, etc. Voilà, donc c'est une maison, plus je fouillais, plus elle me livrait ses secrets, et comme vous dites assez justement, effectivement le livre a un côté Casbah. Et il y a beaucoup de stratégies d'évitement pour ne pas aller finalement, y aller quand même un petit peu à la fin, vers la figure du père, qui pourrait être le cœur du livre, mais qui est déplacé à la fin comme un dernier geste.
C'est aussi un livre sur toute cette scène littéraire qui gravitait autour de l'éditeur Charlot et d'Albert Camus. Et plus particulièrement de Jean Sénac, quand je dis plus particulièrement, c'était tout bêtement parce que c'était un ami de votre père.
En fait, il y avait un milieu culturel à Alger qui est très fort. Il y a beaucoup de peintres, il y a beaucoup d'architectes, il y a beaucoup d'écrivains. C'est un petit monde quand même, donc on suppose, comme d'ailleurs un microcosme parisien aussi, tous ces gens se connaissaient, ils échangeaient aussi avec la capitale. Et il y avait entre autres, effectivement, Jean Sénac, qui était complètement admiratif de Camus, qui a pu enfin le rencontrer. Ils ont une amitié littéraire et humaine très très forte. Hein. Camus a beaucoup aidé, même financièrement, Sénac quand il venait à Paris. Après, ils se sont brouillés au moment de ce qu'on appelle, toujours avec des guillemets, bien sûr, les événements. C'est comme ça qu'on appelait ça. Et voilà. Et donc, je sais que Sénac a rencontré mon père forcément à Alger, peut-être à la radio ou des choses comme ça. Et il y avait dans mon livre ce projet qui est naïf, c'est-à-dire comme je pensais que la poésie était passée de Sénac à mon père, et que donc elle était après repassée jusqu'à moi. Et donc je cherchais à remonter le filon comme si on avait besoin finalement de trouver des passeurs. Alors qu'on peut tomber dans la poésie en ouvrant un livre, hein, on n'est pas obligé de rencontrer un poète. Mais il y avait cette idée-là d'essayer de voir à quel moment ce... Je ne sais pas si on peut utiliser le mot virus à la radio, mais... avait été transmis comme ça d'un poète
oui,
qui lui-même le tenait d'ailleurs.
Une maison comme on bâtit une œuvre littéraire, ça c'est en référence à votre grand-père architecte Claro. Et vous êtes posé ces questions, vous les posez dans votre livre. Et c'est quoi la réponse? Quelle est votre réponse aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas de réponse.
Déjà, c'est un livre que je ne pensais pas écrire. J'explique un peu dans juste à l'intérieur même du livre comment il a été déclenché. Et donc au début, je voulais juste dévoiler déplier. Comme l'a dit Arnaud Bertina, déplier il y a un pli du temps comme ça à ouvrir et cette maison et effectivement, ça m'a obligé à aller plus loin, à essayer de voir les zones d'ombre, etc. Et pourquoi? Alors après, c'est pas forcément un sujet passionnant, mais pourquoi moi, en tout cas, je ne m'étais jamais intéressé à ce passé qui est quand même assez prégnant, colossal, et que j'ai toujours refusé. Donc j'ai, en fait, c'est ça, c'est un peu une découverte. C'est pourquoi la poésie est passée et pas l'histoire. Et pourquoi peut-être maintenant je me retourne enfin vers ce passé.
Il y a des éléments de réponse, hein. Pourquoi ne pas parler de ce passé ou s'approprier ce passé? C'est parce que vous en avez souffert. Vous étiez vous le petit-fils de pieds noirs, d'origine espagnole, vous étiez désigné comme un arabe, comme un bicou.
Voilà. Ouais. Donc ça, c'est assez paradoxal quand vous êtes... En fait, j'avais toujours l'impression d'être l'autre de l'autre. C'est un peu... Donc voilà, bon, pour des petits blancs français, ils trouvaient que j'étais arabe. Comme moi, je voyais bien que mon père et mon grand-père étaient pieds noirs et qu'eux n'avaient pas forcément toujours non plus des discours très bienveillants sur les arabes. Il y avait une espèce de double bind comme ça qui était assez insupportable. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je me suis passionné pour la littérature américaine, c'est-à-dire aller à un horizon, une ligne de fuite pour aller vers autre chose.
Tous les auteurs qui sont présents, c'est-à-dire aussi bien les écrivains, les peintres, les cinéastes, ils vont vivre des aventures autour de la Casbah ou autour de la maison indigène, la maison mauresque que votre grand-père Léon Claro a construit pour le centenaire de la présence française en Algérie. Et c'est vrai que quand ces parcours se retrouvent, se rencontrent, se répondent, qu'est-ce que vous dites, Claro? Vous dites que c'est le hasard, c'est le Mektoub, ou vous dites, ah, ça c'est mon architecture d'écrivain. Parce que c'est fou, par exemple, pour reprendre Camus et arriver jusqu'à l'adaptation de son film, ou partir de Camus jusqu'à Jean Sénac, quand vous rappelez que l'arabe de l'étranger, il va être tué d'une balle et après de quatre autres balles, Sénac va connaître la même chose à Alger dans les années 70, quand il va être assassiné. Un coup de couteau suivi de quatre autres coups de couteau.
Mais c'est vrai que quand on explore une période historique assez brève et dans un milieu social humain assez limité, au bout d'un moment, il y a des connexions qui se passent, qui se font, etc. Et le fait de fouiller va exaucer en quelque sorte des choses qui sont des coïncidences, du hasard, mais ça prend un sens forcément. Il y a des symboles qui se détachent, il y a aussi des choses qu'on crée presque artificiellement, hein, comme ça, et des fois je me dis, ah, bien, je suis étonné par ceci et cela, mais c'est normal, ils sont dans la même ville, ils se croisent, ils se voient, il n'y a pas de hasard, ou alors il n'y a que du hasard.
Toto et les 2 millions de titres lessivés. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il fallait l'empêcher de venir à la Casbah. La police continentale est si bien organisée. Bonjour, messieurs.
Bonjour, patron. Je vous présente notre collègue de Paris, l'inspecteur Jean Vier.
Je sais. Enchanté, monsieur le commissaire. Continuez, messieurs.
J'essayais d'expliquer à notre collègue les raisons de notre échec dans l'affaire de Pépé le Moko.
Il n'y a qu'une raison, et qui vous échappe à vous autres de Paris.
La Casbah.
C'est ce que je disais. Ben, j'irai y faire un tour demain, pour y voir clair.
Pour y voir clair, c'est amusant.
Mais la Casbah, c'est un maquis. Venez voir, mon cher collègue.
Oui, on peut dire que Pépé tient le maquis. Vu à vol d'oiseau, le quartier d'Alger qu'on appelle la Casbah, profond comme une forêt, grouillant comme une fourmilière, est un vaste escalier dont chaque terrasse est une marche et qui descend vers la mer. Entre ces marches, des ruelles tortueuses et sombres, des ruelles en forme de guet-apens, des ruelles qui se croisent, se chevauchent, s'enlacent, se désenlacent dans un fouillis de labyrinthe. Les unes étroites comme des couloirs, les autres voûtées comme des caves. De tous côtés, dans tous les sens, des escaliers, des montées abruptes comme des échelles, des descentes vers des gouffres sombres et puants. Des porches suintants, envahis de vermine et d'humidité. Des cafés obscurs, bondés à toute heure. Des rues désertes qui habitent le silence, des rues aux noms étranges.
Vous avez reconnu, Claro, que c'est un extrait du film de Julien Duvivier, Pépé le Moko. Il a quelque chose à voir avec votre récit qui vient de sortir chez Actes Sud, La Maison Indigène. C'est que, vous savez où je veux en venir, hein.
C'est-à-dire
que...
Non, mais je vous suis.
Bon, Pépé le Moko n'a pas été tourné à Alger.
Oui, je le sais.
Et vous n'êtes pas allé à Alger pour écrire La Maison Indigène, c'est ça qui est fou. Pourquoi vous n'êtes pas allé à Alger pour écrire La Maison Indigène?
Je pense que ça fait partie de, c'est la prolongation de cette réticence par rapport à ce passé. Quand j'ai commencé à écrire le livre, je me suis effectivement posé la question. Je me suis dit, il faudrait peut-être que, que j'aille sur place. Et en fait, j'ai résisté parce que je voulais, que ça reste pour moi un livre de papier. Je veux dire que c'était ce livre devenait la maison, et je compte plus sur l'avenir pour aller à Alger. Je voudrais que ça soit ce livre qui puisse déclencher, je sais pas, une invitation ou un voyage, des choses comme ça. Mais je pense qu'il faut que la demande vienne de l'extérieur. C'est un blocage, hein, c'est une réticence complètement absurde. C'est pas très compliqué d'aller à Alger non plus, mais voilà, donc j'attends le bon moment, mais je pense qu'il fallait que le livre soit refermé pour que je puisse y aller bizarrement.
Et puis parlons du père, parce que en parlant de votre grand-père, vous êtes à la recherche de ce père, et là aussi, rendez-vous avec l'histoire et avec l'histoire de la guerre d'Algérie. Votre père a quitté l'Algérie en 1951, c'est-à-dire avant la guerre. Pourquoi il vous emmène voir à Paris la bataille d'Alger dans des situations plutôt dangereuses, puisque le film a été, c'est le moins que l'on puisse dire, très mal reçu par l'OAS et les nostalgiques de l'Algérie et française, et on vous voit gamin dans une salle de cinéma qui venait d'être plastiquée avec des débris de verre autour de vous et votre père souriant, et ce sourire de ce père, parce que on voit bien qu'il est chaleureux avec vous et qui vous emmène voir ce film comme si c'était nécessaire pour un enfant.
Alors, on parlait de fiction, je pense que c'est le seul chapitre du livre qui est une fiction. Il a un titre, mais on fait pas forcément attention au titre ni à ce qu'ils veulent dire, mais ça s'appelle La séance des rêves. Et en fait, c'est complètement fantasmatique. Je suis absolument pas allé au cinéma voir le film avec mon père, mais j'ai eu envie d'y aller dans le livre, vous voyez.
Donc il y a quelques moments comme ça où le romanesque l'emporte sur l'enquête familiale ou la quête du père dans ce livre, La Maison Indigène, Claro.
En fait, c'est ce que je disais, c'est comment alors mon père quitte l'Algérie en 51 pour faire son service militaire en Allemagne, et après il est débarqué, comme on dit, en France, et il ne retournera jamais en Algérie. Son seul lien avec l'Algérie sera quand son père, donc mon grand-père, revient en France, quand Sénac fait des nombreuses visites, et lui-même, bon, comme beaucoup de pieds noirs, ne m'en a jamais parlé, ou alors j'ai pas su l'entendre. Mais en tout cas, il a ramené de là-bas, en tout cas, c'est une passion littéraire et poétique qu'il a réussi à me transmettre, et donc c'est ça que je cherche.
Je ne sais pas l'arabe, rien de ses signes, de ses sens, de sa gorge. Je sais la coupure, le rejet, le déni. Je l'ai sais sur les doigts de la main qui se cache dans la poche quand il faut la tendre aux proches. Je connais mal le chemin de mémoire, ignore l'art du souvenir, me méfie des legs. Je sais en revanche l'oubli, son vertige, sa facilité, sa lâcheté protectrice, ses ruses salvatrices. Je sais aussi qui sait, qui se rappelle encore et pourquoi. Je sais peut-être pourquoi je n'ai pas voulu longtemps savoir. Je ne sais pas l'héritage, la transmission, mais je sais le poids de leurs ombres, la ténacité des choses tues. Je sais le racisme, les mots bougnoul et bico, parce qu'entendu, reçu et ne sachant qu'en faire, les rapportant à la maison, les posant aux pieds des parents, et la gêne avec en retour un autre mot, pied noir, qui me semblait alors l'équivalent de main sale, comme si le corps, hein, difficile à laver, maculait la nuit et guère mieux le jour. Claro, La Maison Indigène, édité chez Actes Sud.
« يا السقيمة الكسنة باقي مجور بين دوح الغصان خلقو مولانا فيه السيسان والحكيم يشرح العقول يا مسعد هليلة على الرضا في بستان حفيل بين تحجيب سوارو في بساط رفيع بهيج سلطنة تحيا بيه الدار.
On ne saura jamais si le grand maître du Chaabi, le regretté Amal Zahi qu'on vient d'écouter, est allé ou pas à la maison indigène, si proche de là où il habitait. Mais Claro, vous savez que Jean Nouvel est allé, a failli s'installer dans la maison construite par votre grand-père quand les autorités algériennes lui ont demandé de venir voir comment il pouvait réhabiliter la Casbah, ce qui a provoqué bien sûr un débat houleux en Algérie.
Oui, j'ai appris ça, qu'il avait installé ses bureaux un temps là-bas.
Ah, il avait carrément installé ses bureaux.
Il avait installé ses bureaux. Mais c'est vrai que l'Algérie, voilà, il est traversé par des architectes. On a Corbusier, Pouillon, maintenant Nouvel. Chacun essaye. Bon, Corbusier n'a rien bâti.
Vous mettez pas votre grand-père en tête de liste?
Il est un peu, c'est le passé hein, quand même. Même s'il est, il était assez fanatique de Le Corbusier, il était quand même un grand admirateur de Auguste Perret. Le foyer civique qu'il a construit est quand même quelque chose d'assez monumental, voilà. Mais non, les architectes aiment bien délirer sur la ville blanche. Les projets de Le Corbusier pour Alger sont complètement fous, une espèce d'autoroute qui court sur des immeubles sur tout le front de mer. Pouillon, bon bah on sait aussi ce qui s'est passé et voilà, et Nouvel qui visiblement ne fera peut-être pas voilà, la Casbah peut-elle changer de visage, c'est quelque chose je pense c'est un peu au peuple algérien de décider quand même.
Une fois que vous avez écrit ce récit donc en hommage à votre grand-père architecte à la recherche de votre père pour donner un sens aussi à ce qui est transmis, ce qui ne l'est pas quand on sort de ce livre, de ce récit, Claro, comment on se sent?
On se sent comme quand on a réussi à fabriquer une maison avec des matériaux qui appartenaient à d'autres gens. De même que la maison indigène a été construite avec les restes d'une ancienne casbah. Moi, j'ai eu l'impression de pour une fois faire un livre non pas avec mon imaginaire, comme c'est le cas en général, mais voilà, avec tous ces matériaux qu'on m'a transmis que je ne voyais pas. Je ne pensais pas qu'on pouvait bâtir avec.
Vous les avez réhabilités, ces matériaux?
Bon, c'est pas une entreprise d'assainissement non plus, mais en tout cas, c'est une... Voilà, une façon de revisiter une maison. Est-ce qu'on peut encore l'habiter quand elle a disparu quelque part?
Bon, vous êtes prêt à retourner à la Casbah d'Alger? À découvrir la Casbah d'Alger?
Oui, je pense que je suis prêt maintenant.
La maison indigène de Claro, c'est édité chez Actes Sud. Merci d'être venu ce matin.
Merci.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Si vous voulez savoir à quoi ressemble la maison indigène construite par le grand-père de mon invité, Léon Claro, donc, et ben rendez-vous à la page de l'émission Le réveil culturel sur franceculture.fr. On se retrouve demain à la même heure.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Confiné avec Simone de Beauvoir.
Les chemins de la philosophie, Adèle Vendrette.
La femme mariée est-elle devenue libre? Comment Simone de Beauvoir a-t-elle influencé le travail de ses amis philosophes et réciproquement? Y a-t-il un destin biologique du corps féminin? Et enfin, de l'amour nécessaire pour Sartre aux multiples amours contingentes, comment concilier travail intellectuel et passion du cœur?
Les chemins de la philosophie, du lundi au vendredi à 10h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Sur France Culture, le magazine de la nature et de l'environnement, Aurélie Luneau.
Le monde est en pleine mutation et une nouvelle conscience planétaire agit sur les politiques, les économies et nos sociétés. Elle transforme le collectif comme le particulier et suscite des questions de fond. comment l'environnement est devenu l'enjeu majeur de nos vies futures. Chaque semaine, décryptage et analyse des enjeux environnementaux pour la société d'aujourd'hui et celle de demain.
De cause à effet, le mardi à 21h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Quand les restrictions se multiplient en Europe, le vaccin de Moderna suscite l'espoir face au Covid-19. Le laboratoire américain a un patron français. Il nous expliquera comment les tests ont été réalisés, grâce à quel argent, quand l'OMS rappelle qu'un vaccin n'éradiquera pas le virus. Dans cette édition encore, réaction d'une association pour aider les personnes en situation de handicap. Hier, un comité interministériel promettait quelques mesures sans prendre en compte la difficulté de télétravailler en ce moment pour ces salariés. Réaction aussi dans cette édition de France Fraternité, alors que 2000 migrants sont en train d'être évacués d'un camp, cela se passe au nord de Paris en ce moment. Et puis que se passe-t-il au Sahara occidental? Hier, la situation restait confuse après des tirs croisés le long du mur qui scinde le territoire disputé. Après Pfizer et le vaccin russe, la semaine dernière, c'est donc Moderna qui a fait l'événement hier en publiant des résultats partiels de tests menés sur son projet de vaccin anti-Covid. Il sera efficace à près de 94,5% selon un communiqué mis en ligne. Pour obtenir ce chiffre, Moderna s'appuie sur les 95 volontaires de son essai. Stéphane Bancel, le patron français de Moderna, espère que ces résultats définitifs pourraient aboutir d'ici la fin du mois pour de premières injections aux États-Unis dès Noël. Ce sont d'ailleurs les États-Unis qu'ils souhaitent remercier, eux qui ont investi massivement. Écoutez Stéphane Bancel, le patron de Moderna.
Le gouvernement américain a payé toutes les études cliniques et ça nous a permis de gagner beaucoup de temps. Parce que généralement, ce que vous faites, c'est avant de passer d'une étape, on va dire de phase 1 à une étape de phase 2, vous attendez de savoir, bien sûr, la sécurité du vaccin d'abord, mais aussi le niveau d'anticorps. Mais ça prend des mois. Et une fois que vous avez vos anticorps, si ça marche, vous allez commencer à fabriquer le produit pour la phase 2. Et tout ça prend encore des mois. Qu'est-ce qu'on a fait dans notre cas-là? On a commencé à fabriquer les flacons pour la phase 2 pendant que la phase 1 démarrait, mais sur des coûts de 20 ou 30 millions de dollars payés par le gouvernement américain. Et la phase 3, c'est pareil. La phase 3, elle va finir par coûter sans doute 800 millions de dollars, 100% financé par le gouvernement américain. Et quand on va déposer le dossier donc en Europe pour protéger la population française, ça va être en fait un cadeau du gouvernement américain parce qu'on va déposer les données américaines à l'agence réglementaire européenne. Il n'y en aura pas eu un euro de support pour les études cliniques des pays européens, pas un euro. Et donc, les pays qui ont participé rapidement, comme je disais, le Canada, les US, à payer une partie de la commande en prépaiement pour nous permettre d'acheter les matières premières, nous ont beaucoup aidés.
Voilà pour l'espoir et les promesses de la part de Moderna. Cela veut-il dire que la partie est en passe d'être gagnée contre le Covid-19? Non, selon l'Organisation mondiale de la santé, son patron, le docteur Tedros, prévient « le vaccin n'est qu'une arme parmi d'autres ».
Un vaccin en tant que tel ne mettra pas fin à la pandémie. Au début, les stocks seront limités. C'est pour cette raison que les personnels de santé, les personnes âgées et les autres personnes à risque seront prioritaires. Ça devrait permettre, espérons-le, de réduire le nombre de morts et de permettre au système de santé de faire face. Mais le virus gardera dans tous les cas une grande liberté de mouvement. Nous allons devoir poursuivre la surveillance. Nous allons devoir continuer à tester, isoler et traiter les malades. Il faudra encore tracer les contacts et les mettre en quarantaine. Et les gens devront rester vigilants.
Alors en attendant ces protocoles, le virus circule lui toujours activement. Mesures sanitaires renforcées aujourd'hui en Autriche, en Allemagne et même en Suède, pays qui jusque-là n'avait pas pris de protocole fort. En France, les contaminations baissent en revanche, lentement. Les bars et les restaurants fermés depuis des semaines maintenant pourraient avoir un peu plus de visibilité en début de semaine prochaine. Et les bars et les restaurants pourraient ne pas rouvrir avant la fin de l'année. En tout cas, le ministre de l'Économie l'a laissé entendre hier aux représentants des restaurateurs. Les députés entament aujourd'hui des discussions sur la loi sécurité globale et sont très controversés, article 24. Article qui prévoit notamment de punir la diffusion dans un but malveillant d'images de policiers ou de gendarmes en opération. Journalistes et autres professionnels de l'image dénoncent une atteinte sans précédent à la liberté d'informer. Nous y reviendrons en longueur dans le journal de 7h. D'ici là, 6h34, penchons-nous sur les promesses du gouvernement pour les personnes personnes en situation de handicap. De nouvelles aides pour mieux concilier handicap et parentalité ont été annoncées hier. Idem pour un soutien prolongé aux embauches, mais rien sur les aides au numérique en ces temps de généralisation du télétravail. De nombreux logiciels et outils n'ont pas été adaptés pour les déficients visuels, par exemple, un handicap qui s'ajoute donc à un autre. Écoutez la déception à ce propos de Pierre Maragou. Il préside l'association APIDV, accompagner, promouvoir, intégrer les déficients visuels.
C'est aussi une question de discrimination. Et évidemment, dans certains cas, ça complique énormément les relations de travail ou particulièrement le travail collaboratif. Je parle par exemple de Google Doc ou de ce type d'application. Eh bien, ces applications-là, on peut quasiment pas les utiliser lorsqu'on utilise un ordinateur vocalisé ou une plage braille. Les applications spécifiques à certains métiers, par exemple le logiciel Pronote ou le logiciel Maclass pour les professeurs qui sont aveugles ou malvoyants, ou encore certains logiciels de ressources humaines pour les personnes qui sont gestionnaires RH, sur ces logiciels-là, on avait de grosses difficultés. Clairement, depuis le premier confinement, on a fait très très peu de progrès. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on publie un manifeste et on râle un petit peu, voire on râle beaucoup, parce que 6 mois après, le sujet n'a pas bougé. On a un aveugle sur deux en âge de travailler qui est au chômage. C'est une question de discrimination et donc c'est une question qui doit être prise en compte sérieusement, à la fois par les entreprises et les pouvoirs publics.
C'était Pierre Maragou qui répondait à Thomas Giraudot. 2000 migrants d'un campement installé au pied du Stade de France près de Paris sont en train d'être évacués ce matin. Il s'agit en grande majorité d'Afghans, mais aussi de Somaliens, Soudanais ou Éthiopiens. Sous des bâches en plastique ou des tentes de fortune, ces réfugiés sont des primo-arrivants. Quelques transfuges également, de camps déjà démantelés il y a quelques mois dans le nord de la capitale, porte de la Chapelle notamment. Cécilia Arbona a joint à ce propos celui qui a été président de France Terre d'Asile pendant 24 ans et qui est aujourd'hui à la tête de l'association France Fraternité. Il s'agit de Pierre Henry. Pierre Henry se désole des évacuations successives qui ne règlent rien, dit-il.
C'est une répétition depuis maintenant 5 ans où à Paris, nous voyons des campements s'installer avec des gens qui vivent dans le plus complet dénuement. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de toilettes, ça veut dire qu'ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas de quoi se laver. Si les pouvoirs publics pensent que maltraiter les gens dans l'accueil va dissuader qui que ce soit, c'est évidemment une erreur fondamentale. Et à ce jeu-là, on perd sur tous les tableaux, sur celui de nos valeurs, et on ne règle évidemment aucun des problèmes qui nous est posé.
C'était le président de l'association France Fraternité, alors qu'un camp de 2000 migrants est donc en train d'être évacué ce matin au nord de Paris. Partons à présent au Sahara occidental, source de tensions en ce moment entre le Maroc et le Front Polisario. Le roi du Maroc a mis en garde hier contre toute menace à la sécurité de son pays, et ce après des échanges de tirs entre troupes marocaines et indépendantistes dans la région du Sahara occidental. Le Maroc et le Front Polisario ont en fait rompu le cessez-le-feu dans cette ancienne colonie espagnole après l'incursion ces derniers jours de l'armée marocaine dans une zone tampon à la frontière avec la Mauritanie. Le Maroc souhaitait en fait y restaurer un trafic routier. Les précisions d'Omar Waman.
Cela faisait plusieurs semaines que des civils sahraouis présentés par Rabat comme des miliciens du Front Polisario bloquaient la route transfrontalière qui mène vers la Mauritanie, un axe essentiel pour les échanges commerciaux entre le Maroc et l'Afrique de l'Ouest. Les indépendantistes sahraouis accusent les autorités marocaines de piller leurs richesses. Le Sahara occidental en regorge, phosphate, or, cuivre ou manganèse. En usant de la force pour rétablir le trafic routier, le Maroc dit agir en toute légalité dans ce qu'il appelle ses provinces du Sud, un territoire jadis sous domination espagnole avant que Rabat ne l'annexe. Supérieur sur le plan militaire, le Maroc s'expose désormais à des attaques des militants du Front Polisario parrainés et armés par l'Algérie voisine, des Sahraouis qui disent ne plus être tenus par le cessez-le-feu signé en 1991 sous l'égide de l'ONU. Les Nations Unies chargées également d'organiser un référendum d'autodétermination pour le peuple sahraoui, référendum que le Maroc a toujours refusé, préférant lui accorder une autonomie sous sa souveraineté. Rabat peut compter dans ce dossier sur le soutien des États-Unis et des Européens au nom de la lutte contre le terrorisme.
C'était Omar Waman. Quelques mots pour finir de ce qui se passe en ce moment au-dessus de nous. La capsule Dragon de SpaceX transportant 4 astronautes s'est arrimée avec succès cette nuit à la station spatiale internationale. Sachez qu'en revanche, c'est un échec pour le lanceur européen Vega qui devait mettre en orbite 2 satellites pour le compte de l'Europe cette nuit depuis Kourou. Il a essuyé une anomalie dans sa trajectoire d'après ArianeSpace. Le temps sera sec ce mardi au-dessus de la France métropolitaine avec des nuages bas au nord de la Loire, un ciel à peine voilé plus au sud avec 7 degrés ce matin à Strasbourg et Lyon, 9 à Bordeaux, 11 degrés à Paris et 14 à Nice. C'est l'heure du journal des idées à 6h40 sur France Culture. Jacques Munier, bonjour.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Jacques, des sociétés de journalistes déclarent dans une tribune du Monde qu'en limitant la diffusion d'images des forces de l'ordre, l'article 24 de la sécurité globale que nous avons abordé dans le journal, cet article 24 oui. menace la liberté d'informer.
Oui, ainsi que celle de tout citoyen, je cite, les rapporteurs du texte affirment qu'une telle disposition ne trouverait à s'appliquer qu'à des diffusions clairement malveillantes, mais les signataires soulignent que la loi française réprime déjà les menaces, les atteintes à la vie privée et le cyberharcèlement, et ils dénoncent la notion très floue du critère d'intention malveillante. Il y a fort à craindre que sur le terrain, les policiers qui s'opposent déjà bien souvent, y compris par la force aux captations photo et vidéos, pourtant parfaitement légales, de leurs opérations dans l'espace public, se sentent plus fondés que jamais à les entraver. Et que les médias renoncent à diffuser des images d'interventions houleuses de peur de faire l'objet de procédures bâillons. Quant aux simples citoyens ou aux militants d'associations de défense des droits, ce sont souvent les vidéos de violences commises par les forces de l'ordre qui ont permis d'inscrire ce sujet dans le débat démocratique. Dans les pages idées du quotidien, Vanessa Codaccioni rappelle que les législations d'exception introduisent une faille dans le droit commun susceptible de se retourner contre d'autres cibles et qu'elles sont le plus souvent destinées à s'y maintenir durablement. La mise en perspective historique l'illustre parfaitement, c'est l'angle adopté par la chercheuse livre après livre pour enquêter sur la répression politique. Le 14 octobre, elle était auditionnée à l'Assemblée nationale dans le cadre de la commission d'enquête relative aux pratiques et doctrines de maintien de l'ordre. Elle avait beaucoup insisté sur la nécessité de pouvoir continuer à filmer les interventions policières. C'est un moyen essentiel en démocratie pour contrôler et dénoncer les dérives du maintien de l'ordre. Les exemples sont malheureusement trop fréquents et témoignent d'une brutalisation, comme le montrent Olivier Filleul et Fabien Jobard dans leur ouvrage sur la police des manifestations en France, publié au Seuil sous le titre « Politique du désordre ». On est passé d'une doctrine de pacification dans les années 1980 à un durcissement patent dès les années 2000. S'il est vrai que les services d'ordre assurés par les syndicats se sont affaiblis à mesure que déclinaient leur représentativité et leurs moyens humains, que les formes de manifestation ont évolué et que les black blocs sont montés en puissance, les auteurs signalent également l'érosion des capacités traditionnelles de maintien de l'ordre sous l'effet des politiques de restriction budgétaire en lien avec le recul de la formation ainsi que la judiciarisation exponentielle de l'occupation contestataire de l'espace public. La manifestation de rue est de moins en moins considérée comme légitime et au final toujours moins efficace en termes de résultats. C'est ce que commande, ce que documente également Daniel Tartakovsky dans un ouvrage publié aux éditions du Détour sous le titre « On est là, la manif en crise ». Les manifestations massives qui avaient fait reculer Alain Juppé et sa réforme de la sécurité sociale semblent bien loin, mais cette forme d'action collective se réinvente partout dans le monde avec les luttes altermondialistes et en France avec des modalités nouvelles d'occupation de l'espace, des ZAD aux places ou aux ronds-points. L'historienne des mouvements sociaux relève une édifiante concomitance entre la baisse du nombre de journées de grève hors fonction publique et l'augmentation de la fréquence des manifestations. La dernière livraison de la revue Sociologie publie un dossier sur les enquêtes à chaud dans les mouvements sociaux. Comment garder la distance sociologique, garantissant la neutralité axiologique lorsque l'enquête se fait au sein même des mouvements sur le mode ethnographique de l'observation participante. C'est le cas des Gilets jaunes, étudiés sous cet angle par Quentin Ravelli, enquêtant à la fois sur un rond-point dans le Loiret et le samedi dans les manifestations parisiennes, souvent entravées dans ses relations par le risque de brouillage entre enquête sociologique et médiatique. Un risque qui semble au contraire avoir bénéficié à Mathieu Auclay dans son enquête sur les conflits du travail dans les industries de main-d'œuvre à bas salaire nord-américaines, grande distribution et restauration rapide, réputées pour leurs pratiques antisyndicales. Là, les médias sont considérés comme des relais ou des soutiens. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous, Antoine Dulster, bonjour.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à toutes et à tous.
Au programme ce matin, la question délicate du rôle politique des forces armées aux États-Unis.
Oui, quelques jours après des mots du chef d'état-major des armées américaines qui ont fait grand bruit, Mark Milley, dans un discours à l'occasion du jour des vétérans, c'était le 11 novembre dernier, Mark Milley déclarait « Nous prêtons serment sur la Constitution et pas auprès d'un roi ou d'une reine ou d'un tyran ou d'un dictateur ou d'un individu ». Alors ces mots, le plus haut gradé américain ne pouvait ignorer qu'ils seraient forcément interprétés comme une mise en garde dans le contexte politique explosif de ces derniers jours. Le président Donald Trump refuse toujours d'admettre sa défaite dans les urnes face à Joe Biden. Envisagerait-il ce président Trump de se maintenir par la force? Et surtout, quelle est sa vision du rôle qui doit être celui des forces armées? La question était posée déjà il y a quelques mois pendant les émeutes qui ont suivi le meurtre de George Floyd. Le président Trump s'était affiché après un épisode de violence à Washington, en compagnie de responsables des forces armées, et le même Mark Milley avait déjà pris ses distances contre une instrumentalisation politique de l'armée américaine. Alors existe-t-il aux États-Unis une tentation du pouvoir politique d'utiliser l'institution militaire en la faisant sortir de son rôle? Nous en parlons avec un spécialiste des États-Unis et spécialement des questions de sécurité aux États-Unis, Didier Combeau, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes chercheur associé à l'Institut des Amériques et je signale pour nos auditeurs deux de vos ouvrages, Police américaine et Être américain aujourd'hui, enjeu d'une élection présidentielle. Deux ouvrages publiés chez Gallimard. Alors Didier Combeau, ces quelques mots prononcés par le chef d'état-major des armées américaines, nous prêtons serment sur la Constitution, pas auprès d'un individu, d'un roi, d'un tyran ou d'un dictateur. Dans le contexte politiquement agité que connaissent les États-Unis, avec cette transition, je le disais, compliquée, le général Mark Milley ne pouvait pas ignorer qu'il serait forcément très repris et très commenté ces mots. Est-ce qu'il est bien dans son rôle, ce chef d'état-major des armées américaines, quand il fait ce rappel?
Mais écoutez, oui, tout à fait, puisque aux États-Unis, comme dans toutes les démocraties, il y a une distinction très claire entre les militaires et les forces de police. Et lors des manifestations organisées par Black Lives Matter contre les violences policières au mois de juin, Donald Trump avait proposé et même fortement insisté pour faire intervenir les militaires fédéraux, hein, les militaires d'actifs, donc des militaires de carrière, pour contrer ces manifestations. Il reprochait aux maires et aux gouverneurs démocrates de ne pas être suffisamment fermes avec elles. Et donc, il proposait une intervention des militaires, ce qui est tout à fait contraire au serment des militaires qui portent serment sur la Constitution. Et la Constitution comprend un amendement, le troisième amendement, qui interdit au gouvernement fédéral de réquisitionner des logements. Alors c'était dans le cadre de la fin du 18e siècle, hein, qui interdisait au gouvernement fédéral de réquisitionner des logements pour y cantonner des troupes. Et le but de cet amendement, c'était justement d'éviter que le gouvernement fédéral puisse utiliser les militaires pour maintenir l'ordre, comme l'avait fait la couronne d'Angleterre au moment de l'indépendance.
Alors Didier Combeau, alors pour préciser peut-être mes questions et vous la reposer de façon plus directe, est-ce qu'il y avait peut-être cette crainte que le président Trump envisage de faire appel aux forces armées dans une interprétation très extensive de ce que seraient peut-être des pouvoirs spéciaux en raison d'une situation exceptionnelle dans la continuité de la contestation du résultat du vote du 3 novembre. Est-ce que cette peur, elle existe au sein de l'état-major des forces armées américaines et dans la société américaine également ?
Ah oui, tout à fait. La situation est une situation qui est tout à fait exceptionnelle. On n'a jamais vu jusqu'à présent un président qui s'apprêterait à ne pas quitter le pouvoir alors qu'il a été battu lors des élections. Donc c'est effectivement une crainte. Et cette crainte, elle est d'autant plus fondée que Donald Trump a procédé à un remaniement des hautes autorités, non pas des hautes autorités militaires, mais des civils qui sont au gouvernement du secrétaire à la défense. Hein. Il a remplacé Mark Esper par Christopher Miller, qui est un Trumpiste convaincu. Donc c'est effectivement, cette inquiétude existe.
Ça fait partie, Didier Combeau, des dossiers un petit peu chauds, si je puis dire, entre le président actuel, Donald Trump, et son administration, et en tout cas la tête de l'armée. Vous parlez donc de ses nominations hein, de proches du pouvoir dans le Pentagone. Dans un article du New York Times, on fait mention aussi de ces nominations en série avec la promotion d'officiers ayant eu une attitude très dure vis-à-vis de l'Iran ou qui était en faveur d'un retrait rapide des troupes américaines d'Afghanistan. Ces officiers-là sont promus. C'est quelque chose qui est peut-être un peu inhabituel. On connaît le spoil system à l'américaine. Là, on a l'impression qu'il y a un recasage d'officiers proches des vues du pouvoir actuel. Encore une fois, dans quel but est-ce qu'il y a peut-être un agenda trumpiste pour ces prochains mois et ces prochaines années ?
C'est ce qui inquiète un certain nombre d'observateurs. Hein. On est dans cette période de transition où Donald Trump est encore président jusqu'au fin janvier. Et on sait qu'il y avait une opposition sur plusieurs points. Hein. On a parlé des manifestations tout à l'heure, mais aussi sur cette question des interventions extérieures entre Mark Esper, donc l'ancien secrétaire à la Défense, et Mark Milley, le chef d'état-major des armées, sur le retrait des troupes, en particulier d'Afghanistan. Par exemple, les Milley et Esper considéraient que ce retrait était prématuré et le fait de remplacer Mark Esper par Christopher Miller est peut-être un pas pour pouvoir retirer les troupes d'Afghanistan avant le 20 janvier.
Alors Didier Combeau, vous parliez tout à l'heure déjà de l'utilisation qui avait été faite par Donald Trump de cet affichage avec les plus hauts gradés militaires. Vous citiez donc les violences qui avaient suivi la mort de George Floyd. Et donc Mark Milley s'était déjà désolidarisé de cette utilisation qui était faite d'un affichage comme ça avec les principaux responsables de l'armée. Et il l'a fait quand même en des termes particulièrement inhabituels pour un gradé de son rang, en rendant même un hommage quelques jours plus tard, quelques jours après donc la sortie de Donald Trump devant cette église à Washington, en rendant hommage à la mémoire de George Floyd. Et le militaire a ajouté qu'il regrettait d'avoir donné l'impression que l'armée intervenait dans la politique intérieure. Le constat venait donc du principal gradé de l'armée américaine. Vous rappeliez également, Didier Combeau, son opposition à ce qu'est la loi sur l'insurrection en 1807 pour mobiliser les troupes régulières contre les manifestants. Donc là, il y a de vraies divergences de doctrine hein, entre Donald Trump et ses gradés.
Oui, bien sûr. Effectivement, Mark Milley a regretté et a été très critiqué d'ailleurs par James Mattis, l'ancien secrétaire à la Défense, pour s'être affiché devant cette église avec Donald Trump. On a l'impression finalement que l'armée se trouve entraînée dans cette lutte très partisane hein, entre les démocrates et les républicains, et l'armée a du mal à rester en retrait. Là, on le voit bien. On le voit aussi sur la question du nom des bases militaires. Vous savez qu'il est question de rebaptiser un certain nombre de bases militaires qui portent le nom de généraux sudistes, hein, comme Fort Bragg, par exemple, en Caroline du Nord, ou Fort Hood au Texas. Et Mark Milley, comme Mark Esper, se sont montrés relativement ouverts à cette idée, alors que Donald Trump s'y oppose. Donc, l'armée, qui, il faut le rappeler, est une des institutions qui est les plus respectées aux États-Unis. 40% des Américains font une grande confiance à l'armée, par exemple, alors que seulement 6% font une grande confiance au Congrès. Donc cette institution vénérable, donc, a du mal à ne pas se trouver pris dans ces débats politiques.
Alors Didier Combeau, il y a l'armée et puis il y a la garde nationale qui a justement été aussi utilisée dans le cadre du maintien de l'ordre dans le contexte qui suivait la mort de George Floyd. Peut-être quelques mots sur ce que c'est que cette garde nationale qui a donc été déployée dans de très nombreux États. C'est un corps qui dépend à la base des gouverneurs et puis dans certains cas du pouvoir fédéral et qui est déployé comme soutien aux forces de police.
Oui, alors il faut bien distinguer la garde nationale de l'armée fédérale de métier. La garde nationale, elle est constituée de 450 000 hommes et femmes volontaires, qui sont des citoyens volontaires. C'est une armée de réserve, ce n'est pas une armée professionnelle. Et elle est sous l'autorité des gouverneurs, effectivement. Vous savez que les questions de police aux États-Unis appartiennent aux États. Et donc elles sont sous l'autorité des gouverneurs, mais éventuellement, il peut arriver que le gouvernement fédéralise cette garde nationale lorsqu'il y a un péril qui dépasse le stade d'un État. C'est arrivé très rarement, c'est arrivé une douzaine de fois depuis les années 50, hein, surtout au moment des droits civiques. Et la dernière fois où ça s'est produit, à part donc au printemps, là, la dernière fois où ça s'est produit, c'était en 1992, lors des émeutes de Los Angeles après le passage à tabac de Rodney King, ou plus exactement l'acquittement des policiers qui avaient passé à tabac Rodney King. Et donc c'est quelque chose qui se fait très rarement et dans des circonstances très exceptionnelles. Et les hauts responsables militaires considéraient au moment des manifestations de ces derniers mois qu'on n'était pas dans cette situation exceptionnelle.
Eh bien, merci beaucoup.
Effectivement, les émeutes de Los Angeles en 1992 avaient fait 55 morts.
Voilà, merci beaucoup à Didier Combeau pour ces éclairages sur les forces armées aux États-Unis. Effectivement, pas simplement l'armée fédérale, aussi la garde nationale. Didier Combeau, je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'Institut des Amériques et vous avez publié Police américaine ainsi que Être américain aujourd'hui, enjeu d'une élection présidentielle chez Gallimard.